Boomerang avec Yannick Enel, c'est parti. Partagé par l'historien Patrick Veil ce week-end, ces mots de Pierre Mendès France publiés il y a 36 ans. 36 ans. Je crois que les Français sont très capables de s'intéresser à leurs affaires si vraiment on leur donne la parole. Mais dans la mesure où on ne leur donne pas la parole et où tous les pouvoirs sont concentrés en des lieux un peu lointains, mystérieux, en tout cas inaccessibles, renouvelables à de très lointains intervalles, je crois que ceci est susceptible de provoquer des réactions fort peu démocratiques. Soit une grande indifférence, on se détourne de la vie politique, soit la recherche de moyens d'intervention extra-institutionnels, le désordre, la manifestation, les interventions sous des formes diverses que nous voyons se multiplier. Un jour ce sont les étudiants, un jour les viticulteurs, un jour les fonctionnaires, chacun cherche à se faire, à se rendre justice par des procédés qui ne sont pas ceux de la démocratie, qui ne sont pas ceux d'un fonctionnement institutionnel normal. Alors je crois que, de ce point de vue, cette Constitution, dans la mesure où elle a systématiquement voulu que le seul maître soit un homme, fut-il élu au suffrage universel, a eu pour effet d'affaiblir les ressorts démocratiques et la réalité démocratique de ce pays. Pierre Mendès France, regard sur la Ve République, entretien avec François Lanzenberg, publié à 36 ans. 36 ans.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel regard mon invité porte-t-il sur les structures du pouvoir? Il est écrivain, auteur de Yann Karski, lauréat il y a 2 ans, vous vous souvenez, du prix Médicis pour Tiens, ferme ta couronne. Dans La solitude Caravage, publié aux éditions Fayard et en librairie aujourd'hui, il se penche sur le lien intime qui l'unit au peintre italien du XVIe siècle pour mieux proposer une réflexion sur la création et sur le sacré. Bonjour Yannick Enel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Tout d'abord, comment est-ce que vous l'entendez, vous, ce texte de Mendès France qui a été publié à 36 ans, mais qui est encore plus vieux que cela? Qu'est-ce qui vous inspire?
Plus vieux et plus neuf. On a l'impression qu'il vient d'être écrit ce matin. Merveilleux texte. Je pense que se concentre dans cette parole l'idée que peut-être à vouloir représenter à outrance un peuple, on lui enlève sa légitimité et sa parole.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, à quoi est-ce que vous avez l'impression d'assister, vous?
C'est un mouvement passionnant, un mouvement très ambigu évidemment, mais moi je pense sans cesse à tous les jours à ce que Giorgio Agamben appelle la destitution, à savoir qu'il y a quelque chose entre l'anarchie et la démocratie qui pourrait se jouer de neuf. Je me demande souvent pourquoi est-ce qu'on a un président en France, mais pas seulement en France. Pourquoi cette représentation-là, qui semble de plus en plus lointaine, pourquoi est-ce qu'on ne s'organiserait pas autrement? Voilà, ce sont des choses très simples. Et le texte de Mendès France semble y inviter. 36 ans, vous avez dit. Voilà, une parole véritablement démocratique exigerait peut-être qu'on révolutionne la parole.
Au moment où nous préparions cette émission, vous avez émis le souhait de parler effectivement d'anarchie et de démocratie. De quel côté est-ce que vous penchez, vous, Yannick?
Ah, mais j'ose le dire, du côté de l'anarchie. Mais pour moi, l'anarchie, c'est pas la violence tous les jours, c'est pas le sang qui coule dans les rues. L'anarchie, c'est une disposition intime, personnelle, c'est une façon d'aimer le monde différemment.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus anarchique chez vous?
La solitude.
Au fond, dans quelle France est-ce que vous avez l'impression de penser, d'écrire, de vivre en ce moment, Yannick Enel?
Une France qui n'en finit pas de ressasser obsessionnellement une souveraineté qu'elle n'a plus, une souveraineté absurde et ridicule. La communauté, au pire sens du terme, je pense que c'est quelque chose qui nous amène à des impasses, à la violence. Quand je parle de solitude, c'est la solitude de chacun, la solitude qui rencontre la solitude de l'autre, c'est l'amour au fond. Et moi, je m'identifie pas du tout à un pays. Je suis français, mais j'écris en français. Mais cette France que à laquelle je pense, cette France métapolitique, si je puis dire, c'est une France, je sais pas, universelle, disons, qui n'aurait pas besoin de se jouer à elle-même la comédie du pouvoir. Voilà. Qu'est-ce que ce serait qu'une politique qui désamorce les rapports de force? C'est ça ce que j'appelle l'anarchie.
Mais quelle peut être la place de l'artiste dans toute sa solitude, justement dans un contexte comme celui-ci, les artistes qu'on entend très peu sur ce mouvement?
Je me dis que peut-être les artistes ont comment dire, font de la politique par d'autres moyens. Enfin, les peintres font de la politique dans leur atelier 12 heures par jour. La politique, c'est pas quelque chose qui se scande dans les manifestations. C'est pas seulement quelque chose qui se joue à l'Assemblée nationale. La politique, c'est chez soi aussi. C'est dans la rue. C'est entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes et plus. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire? Mais leurs œuvres parlent. Regardez un Bacon, regardez un Caravage, ou allez voir les peintres d'aujourd'hui, vous allez voir si c'est pas politique.
Qu'est-ce que la peinture du Caravage, puisque c'est le sujet de votre livre, nous dit de la solitude et du monde, Yannick Hennel?
J'ai passé un an, effectivement, à essayer de formuler ce que ça peut bien nous dire, parce que là, c'est un paradoxe, la peinture, c'est le silence. Les figures peintes se dressent face à nous dans nos vies sans parler. Enfin, et cet autre langage, ce que ça nous dit, c'est celui de cette violence quasi sacrée qu'il y a en nous et qui est la même que ce que j'appelle l'anarchie, c'est-à-dire ne pas se laisser faire, ne pas céder sur son désir. Je crois que le Caravage, c'était un insoumis avant tout. C'était quelqu'un qui n'a plié le genou devant aucune autorité, malgré sa ferveur religieuse,
vous
voyez.
Vous écrivez, et c'est passionnant, que cette solitude est liée à son incapacité à s'abandonner aux bras du Christ, tant il est tourmenté par le péché.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, si je savais ce que ça voulait dire, j'ai risqué par ce genre de phrase, et il y a 300 pages de ce genre de phrase, j'ai tenté de comprendre ce qui peut animer un homme aussi sauvage, aussi impérieux, aussi irascible. C'est un homme qui se battait, en fait, qui passait ses nuits ivres, dont qui pouvait dire mes nuits sont plus belles que vos jours, sans doute. Mais qui revenait à son atelier avec ses protecteurs, au fond, le Caravage savait beau être un révolté, c'était quelqu'un qui avait énormément de succès, et qu'est-ce qu'il cherchait, effectivement? Qu'est-ce qui animait sa peinture? Je pense que c'était un cheminement, une expérience qui allait le mener vers une forme d'absolu. Alors, à l'époque, c'est le Christ. Je dis à l'époque parce que je suis pas sûr qu'un peintre aujourd'hui ou un écrivain soit nécessairement mené par une expérience spirituelle christique. Mais en tous les cas, cette spiritualité, une spiritualité peut-être athée, c'est le cœur même de ce qui nous mène.
Et elle vous permet, à vous, écrivain, d'articuler toute une réflexion autour de la création et du sacré. En quoi l'écriture est-elle pour vous indissociable d'une expérience spirituelle presque mystique, j'ai l'impression?
Mais oui, moi ce qui m'importe, c'est ce qui déborde. Ce que j'aime, c'est l'excès. Vous m'avez tout de suite parlé de pouvoir, des structures de pouvoir. C'est insupportable pour moi, c'est intolérable. Le pouvoir.
Il faut que ça déborde.
Il faut que ça déborde. Et c'est pas nécessairement une transgression. Je pense que ces choses-là se font à un point de solitude le plus calme, le plus ardent. Je pense que le feu est calme. Et il y a quelque chose d'indomptable en chacun de nous. Duras dirait quelque chose d'irréductible. Ce point où la société n'a pas prise en chacun de nous. Ce point où on est amoureux, où on n'a plus besoin de s'exprimer au fond. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça le cœur de l'écriture et, je suppose, de la peinture.
Je ne désirais me soustraire à aucun appel. Il me semblait même avoir aperçu combien celui du Christ coïncidait avec la naissance de l'écriture en moi, naissance perpétuelle, que chaque phrase remettait en jeu et qui ne cessait de s'approfondir à travers des expériences poétiques, une lumière qui me rapprochait d'elle-même. Voilà, mon coup de foudre pour le Caravage me confirmait à quel point la vraie vie consistait à s'ouvrir à une parole qui vous nourrit, à lui offrir votre corps, à vous laisser traverser par cette expérience et à écrire. Qu'est-ce que vous entendez, Yannick, par la vraie vie, vous?
La vraie vie, ce serait peut-être, indépendamment de l'aventure qui se dessine dans ces mots-là, c'est la disponibilité, se rendre disponible, fabriquer sa vie pour arriver à cette liberté libre dont parlait Rimbaud. C'est pas si évident, c'est de moins en moins évident.
C'est de plus en plus rare.
Ouais. Comment faire pour se rendre disponible, pour désactiver les emplois du temps, voilà, pour avoir des journées, des nuits où on peut ne rien, non seulement ne rien faire, mais être tout entier à ce rien. Et ce dont vous parlez là, c'est l'expérience qui m'est arrivée il y a plus de 30 ans face à Saint-Louis des Français à Rome, face à un tableau mais stupéfiant. Enfin, aujourd'hui, je continue à en rêver. Enfin, j'y vais de temps en temps le voir. C'est la vocation de Saint Matthieu. Il y a ce bras, ce doigt tendu du Christ vers un homme dans une taverne qui est en train de compter son argent. Et un homme qui compte, voilà, un homme du calcul. Et cet homme, c'est Matthieu, c'est Lévi qui va devenir Matthieu. Et il y a eu un appel, il y a eu une demande de disponibilité. Voilà, quelqu'un est venu, c'est le Christ, ça pourrait être, je ne sais pas, on peut le dire autrement. Et voilà, se rendre disponible à ce qui est plus grand que nous.
Mais quand vous n'entendez pas d'appel, quand il n'y a plus de voix, quand il n'y a rien d'autre que le silence, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes confronté au silence ?
Découragement, enfin la dépression, le rien, qu'est-ce que je fais? Ça c'est la, ça j'ai pas de recette. Si je savais, ce serait merveilleux. Mais l'écriture aussi, c'est un appel, mais c'est aussi une astreinte. Moi j'y travaille, c'est aussi un travail. Je m'y mets tout le temps, enfin, en espérant que ce vide se transforme en autre chose.
J'ai l'impression que vous ne parlez que de cela, de paroles, de silence, de langage, de récit. Les mots sont-ils en mesure de tout raconter?
Je pense que non seulement ils sont en mesure de tout raconter, mais c'est eux qui nous indiquent ce qu'il y a d'irreprésentable. Moi je pense qu'il y a de l'irreprésentable. Mais il n'y a que les mots qui nous invitent à cet irreprésentable-là. Le coup de foudre, par exemple. Que ce soit un coup de foudre pour quelqu'un ou pour un tableau, moi c'est le Caravage, et c'est un véritable coup de foudre. Le coup de foudre, c'est ce qui nous coupe la parole. Mmh. Voilà, on est dans ce vide dont vous parlez, et pourtant ce vide n'est pas un vide dépréciatif ou dépressif. C'est précisément, je dirais, c'est quand la parole se met à nu. Eh ben il y a ce silence là. Quand enfin on est arrivé, je sais pas, les grands mystiques ou Blaise Pascal, ça devait être ça. Au bord extrême de l'écriture, de la parole, de l'expression, il y a ce beau silence.